Bonsoir, on est vraiment heureux de vous rencontrer à nouveau ce mardi soir à Parlons-nous. Et à mes côtés, il y a ma collaboratrice et journaliste Justine Vachon.
Bonsoir.
Et Geoffroy Morin à la technique, moi-même médecin de famille. Et on est prêt à discuter et surtout à vous écouter. Ce soir, le premier sujet, compte tenu que c'est la semaine de la famille et que la semaine passée, on a eu le dépôt de la commission Laurent, donc on est prêt à discuter. Qu'êtes-vous prêt à faire pour éviter les signalements à la DPJ? Et, en deuxième heure, quels sont les besoins les plus criants éprouvés par les familles? Parce qu'on veut, de toute façon, vos témoignages, vos histoires.
Alors, d'abord, comme tu l'as dit, de la DPJ. Évidemment, ce premier sujet inspiré des conclusions de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, qu'on appelle la Commission Laurent. On voulait revenir, hein, Christiane, sur ce rapport-là. D'ailleurs, la présidente Régine Laurent a accordé plusieurs entrevues au cours des derniers jours.
Elle est toujours pertinente, d'ailleurs.
Tout à fait. Comment résumer? C'est assez difficile. 65 recommandations. Oui. C'est un gros rapport.
Absolument.
Et en tout cas, ce qu'elle a affirmé, c'est qu'elle veut des changements au niveau de la loi, mais pas juste ça. Il faut, selon elle, un changement de culture concernant la confidentialité. On en parle depuis quelques temps. Et plutôt que de protéger le système, la confidentialité doit être appliquée en fonction du bien-être de l'enfant. Donc, en entrevue sur nos ondes, Mme Laurent a confié qu'elle ne pensait pas découvrir autant de murs entre les différents intervenants qui viennent en aide à nos enfants. On va comme ça ce soir, à nos enfants. Je vous invite à l'écouter.
C'est une des rares questions qu'en audience, là, des fois, je perdais patience. L'impression que j'avais, c'est que ça protégeait l'organisation, le système, mais l'enfant ou le jeune là-dedans, il faut qu'il y ait une confidentialité bienveillante pour l'enfant. Arrêtez de regarder par en haut. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument briser parce que sinon, tout le monde va continuer à travailler en silo. Et ça, c'est un changement de culture. C'est pas évident.
Donc, un rapport qui appelle à une société bienveillante, elle vient de le dire, à des services de prévention pour épauler les familles. Est-ce qu'il faut rappeler que ce rapport final de cette commission a été mis sur pied à la suite du décès tragique d'une fillette de 7 ans à Granby? Il faut le rappeler que ça vient vraiment de là. Et c'est pourquoi on vous pose cette question-là. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour éviter les signalements à la DPJ? Appelez-nous pour vous exprimer 514-790-9850 partout au Québec, 1-866-790-9850 en nous textant 98985. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'on arrive à
Signalement.
À ce signalement. Et tu as bien aimé le commentaire de notre collègue Luc Ferrandez cet après-midi où il faisait un lien, en fait, avec...
La prévention de la criminalité.
Oui, exactement, la violence des gangs de rue. Et il parlait aussi d'une révolution culturelle. On est un peu là-dedans, hein? Changement de culture dans les façons de faire. Je vous invite à entendre ça. Ça va peut-être vous inspirer sur des solutions.
La vraie solution, c'est celle-là. La vraie solution, c'est l'engagement social. Il faut aller auprès de ces jeunes-là de multiples manières. En commençant par l'éducation, en commençant par le CPE, tu sais, ça prend des CPE dans ces quartiers-là. Est-ce qu'il y en a autant qu'ailleurs? Moi, ce que je lis, c'est qu'il y en a moins qu'ailleurs. Après ça, l'école primaire, l'école secondaire. Et cette idée-là d'avoir du tapis mur à mur, j'ai toujours dit, tu sais, le gouvernement, c'est pas une compagnie de tapis, là. Le gouvernement il faut qu'il réfléchisse à l'idée de mettre la même ressource à Saint-Lambert et à Montréal-Nord. Ça peut pas marcher de même.
Ça, c'est venu te chercher.
Ah, moi, ça a illustré complètement ce qu'il en était. Et, ça part par des choses très simples. Êtes-vous prêt quand vous allez regarder la partie de soccer où votre enfant ou votre neveu se pratique, joue ses parties, à encourager le numéro 14 qui a jamais personne pour lui dans les estrades? Ça coûte quoi de dire « Go, go, numéro 14 », tu demandes à l'instructeur, « Y a-tu un enfant où il n'y a jamais personne pour l'encourager ?» Et c'est facile, c'est vraiment pas compliqué. Donc, de renforcer ça, je lis avec un enfant, c'est un programme qui coûte rien, vous donnez votre nom, vous lisez avec un enfant, parce qu'il y a des enfants dont les parents ne savent pas lire, ne peuvent lire la langue, et il y a des enfants qui ont des troubles de langage. Mais ils comprennent les mots quand même. Ils n'ont pas accès à la lecture. Mais plus tu prends ton mot avec ton doigt, plus tu glisses rapidement et tu lui racontes une histoire, plus il a accès à des mots pour exprimer ses émotions, des mots pour exprimer sa situation, des mots pour rêver, des mots pour avoir des plans futurs, des plans immédiats. Donc, plus on peut parler, plus on peut régler Les coups de poing, c'est pas la première façon de communiquer. Mmh. Alors, il y a plein de choses qu'on peut corriger simplement.
Absolument. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire de plus pour aider ces enfants-là? Appelez-nous 514-790-9850. On veut entendre vos solutions.
Absolument. Et on entendait, Serge, je parlais avec Sylvain Ménard cette semaine et il me disait qu'il y avait eu une intervention et une personne lui avait dit on aurait été tellement plus heureux, même quand on a été placé par la DPJ, si quelqu'un nous avait simplement posé la question « Où voulez-vous aller? » Vous avez des parents incompétents, on le reconnaît, ils sont aimants à leur façon, mais pas de la façon à laisser un enfant pousser correctement. Et l'enfant disait « Moi, j'aurais aimé ça aller chez ma grand-mère aurait aimé ça m'avoir, ça aurait réglé le problème avec mes parents qui ont des droits de visite quand ça leur tente. » On aurait réglé ça, mais malheureusement, personne n'a posé la question. Et quand Mme Laurent disait qu'elle a perdu patience des bouts, là, avec son elle-même, bien, c'est probablement dans des phrases comme ça qui l'ont choquée, qui l'ont mis sous le choc et qui ont évidemment été un problème à solutionner en même temps que la gestion de la confidentialité. Alors, on va parler tout de suite à Mme Marie. Bonsoir, Mme Marie.
Bonsoir. Oui. Je suis arrivée un petit peu en retard dans la conversation, mais ça m'a un peu interpellée les dernières choses que vous avez dit. Puis moi, je crois que ça rapporte beaucoup à aussi comment on voit la société, comment on voit nos enfants, comment on voit certains quartiers, dans le sens que faut vraiment voir chaque enfant comme étant c'est nos ressources. C'est notre futur, les enfants. Peu importe le quartier d'où ils viennent.
Absolument.
Et c'est une difficulté, je trouve, qu'on a des fois de penser aux enfants dans certains quartiers. Puis j'aime pas stigmatiser certains quartiers, là.
Ouais.
Mais il y a souvent les mêmes noms qui reviennent de quartiers.
Mm-hmm.
Et est-ce qu'on voit ces enfants-là comme nos enfants, comme les enfants du Québec, le futur du Québec?
Ouais.
Alors, je crois que quand on a une vision comme ça, je ne me rappelle plus le nom de la personne là, qui avait dit que les écoles à Montréal-Nord...
Ah, c'est M. Ferrandez, Luc Ferrandez.
Luc Ferrandez, c'est ça. Mm-hmm. Ben, c'est ça, ça devrait être la même chose. Mais c'est pas la même chose parce qu'on voit pas ces enfants-là comme nos enfants du Québec.
Mais vous avez tout à fait raison, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour s'engager personnellement. Est-ce qu'on est prêt à faire un sandwich pour le donner à Mme Marie, qui est professeure et qui nourrit un enfant tous les dîners? Est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pratiquement sur les enfants autour de chez nous? Alors, merci beaucoup, Mme Marie. Monsieur Luc, qu'en pensez-vous?
Oui. Moi, je pense qu'on devrait établir l'imputabilité aux intervenants au lieu d'engager des milliers de personnes de plus. Quand un intervenant remet dans une même famille l'enfant que ça fait 3 ou 4 fois qu'il y a des signalements, je pense que même si on engageait 12 autres personnes dans le même bureau, si cette personne-là n'avait pas pris ces décisions-là, ça aurait aidé aussi. Parce que les gens, on a dit, ah, il manque des employés, mais ceux qui sont là, qui prennent une décision, puis qui renvoient l'enfant dans la même famille où il est battu depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans.
Ça, c'est la cour qui les renvoie.
Ben, c'est la cour. Mais Mme Laurent ne parle pas de ça. Elle ne parle pas de ça du tout, du tout.
Okay.
Tous les perdièmes qui sont alloués aux enfants quand ils sont pris en charge,
ouais.
Ceux qui ne sont pas utilisés parce que l'enfant, finalement, change de source. Exemple, un enfant dans une famille, ça ne va pas bien.
Ouais.
Ils le mettent à la prison de Chambly. Mais le perdième qui est déterminé pour lui n'est pas utilisé à d'autres escients. Et ça, je vous parle parce que j'ai été membre du conseil d'administration de la DPJ de la Rive-Sud.
Okay.
Ça aurait été tellement plaisant qu'ils fassent cette étude-là aussi.
Mm-hmm. Mais probablement que dans les nombreuses pages de Mme Laurent, ça doit être indiqué quelque part, certain, parce qu'elle a fait un travail très exhaustif.
Oui, quand il est arrivé de l'affaire à Granby aussi, ils ont remplacé le directeur.
Ouais.
Par celui qui l'avait employé des années avant.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ça non plus, ils n'en ont pas parlé. Je pense que la gangrène est pas mal à l'intérieur même de l'organisation.
Okay.
Avant même d'engager du monde, il faudrait peut-être voir de ça vient d'où le problème.
OK. Fait qu'on va essayer de voir ça, là. Essayer de fonctionner en amont. Mais merci beaucoup, M. Luc. Et on va aller à la pause en vous reposant la question. Qu'êtes-vous prêt à faire pour éviter les signalements à la DPJ et qu'êtes-vous prêt à faire pratico-pratique? Alors, on s'en va au 514-790-9850, le 1-866-790-9850 ou les textos 98985.
Un enfant, ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses lèvres et ça part en chantant. Un enfant avec un peu de chance s'entend le silence et sa pleure des diamants.
Nous sommes de retour à votre émission Parlons-nous. On attend de vos nouvelles parce qu'on veut savoir pratico-pratique. Qu'êtes-vous prêt à faire pour éviter les signalements à la DPJ? Parce que dans le rapport Laurent, on dit qu'il faut agir en amont, avant qu'on soit rendu là. Et le 514-790-9850, dans le 1-866-790-9850 ou le texto 98985. Mais on a Justine.
Oui, via la messagerie texte, je reçois et je lis tous vos messages via le 98985. On a Robert qui dit « Bonsoir docteur, pour avoir lu le rapport « La valorisation de la paternité » est une problématique. Relation mère-enfant, ce n'est pas la seule. Ça aiderait les femmes de souligner les hommes, leur importance aux intervenants du milieu aussi. Donc, je sens qu'il y a un message au niveau de la paternité également que Robert veut nous transmettre. Je veux quand même rappeler sur nos ondes, au cours des derniers jours, il y a une ancienne enfant de la DPJ qui est complètement en accord avec une des recommandations de la présidente Régine Laurent. Qui proposait la création de banques de familles prêtes à accueillir de façon durable et sans délai des enfants. Annie Thériault, elle est âgée maintenant de 26 ans. Elle a témoigné d'ailleurs aux audiences de la Commission pour la protection des enfants du Québec. Et elle a été placée dans trois différentes familles d'accueil au cours de son enfance et de son adolescence. Je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien.
Moi, aujourd'hui, j'aurais aimé être placée en adoption. J'aurais voulu avoir cette option que quelqu'un, d'autres parents peuvent s'occuper vraiment de moi sans faire des va-et-vient. Tu sais, tu peux t'ancrer quelque part puis vraiment t'enraciner fort à cet endroit-là, là. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai des problèmes, mettons, par ce qui est rapport avec l'attachement.
Est-ce que vous seriez prêt à le faire, ça? On vous pose la question ce soir. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour éviter le signalement à la DPJ? Est-ce que vous seriez prêt à accueillir un enfant à la maison? Des familles d'accueil. Je voyais souvent dans des rapports, tu sais, annuels de la DPJ qui manquent de familles d'accueil, souvent pour les 0-5 ans. Mais il y a des gestes plus simples que ça aussi qu'on peut faire dans le quotidien. On veut vous entendre là-dessus.
En fait, ce principe-là, il appelle ça l'adoption simple maintenant.
Oui.
C'est-à-dire que l'enfant n'est pas obligé de renoncer à sa famille biologique.
Voilà.
Mais on a une option de rester et d'être adopté dans cette famille X. Puis que les parents gardent le contact selon leur désir ou pas. Mais on va voir avec le temps, mais les enfants vont avoir un lieu d'attachement fixe avec cette famille-là.
Oui, tout à fait. Et préconiser aussi, tenir compte de l'avis
de l'enfant
également. On veut vous entendre sur qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour éviter les signalements à la DPJ 514-790-9850.
Et on va tout de suite écouter Mme Julda. Bonsoir, Mme Julda.
Bonsoir.
Alors, je vous écoute. Oui.
Oui, mais moi, je me dis dans mon cas à moi, OK, je suis prête à écouter l'enfant et en même temps, je veux que l'enfant m'écoute aussi.
D'accord.
Parce que le signalement, c'est beau de faire des signalements. Des fois, la personne fait des signalements, il n'y a pas de contenu.
Ouais.
Il n'y a pas de contenu solide. Puis c'est quand tu rencontres les DPJ, tu es comme, wow, c'est quoi ce signalement-là? Fait que moi, je pense, en premier, il devrait avoir une communication entre les parents et l'enfant par un médiateur.
Oui, c'est une bonne idée. Mais ça avait été suggéré, ça. Oui, vous avez tout à fait raison.
Parce que l'enfant peut raconter des choses que lui-même, il est perdu dans sa tête.
Uh-huh.
Puis le parent, il n'est pas au courant.
D'accord. Mais vous avez 100% raison. Bien sûr. Puis Mme Laurent le suggérait dans son document. On suggérait une médiation, justement, pour avoir surtout, je vous dirais, plutôt les enfants plus vieux hein, qui sont capables de s'exprimer. Mais oui, bien sûr, avoir une médiation, la version de l'un et la version de l'autre, mais ensemble ou séparément. Exact. Parce que dans les médiations, on a des fois un bord, l'autre bord, puis après ça, les deux. Donc, oui, vous avez tout à fait raison. Et ça, c'est mis théoriquement de l'avant comme solution, mais c'est une excellente proposition. Surtout, oui, bien sûr.
Et aussi, il y a quelque chose aussi, j'aimerais ajouter.
Oui.
Parce que quand tu habites dans un quartier, chacun a leur coin, chaque voisin a leur coin. Je pense que quand chaque quartier, tu sais, chaque voisin connaissait leur voisin, fait que ça fait mieux pour l'enfant.
Ouais.
Que de dire que moi, je vais dans ma maison, je veux pas aller chez la voisine pour jouer parce que, non. C'est un quartier familiarisé, ouais. Ça aide aussi l'enfant.
Vous avez tout à fait raison, ça prend un village pour élever un enfant, et ça fait longtemps que ça le dit, ne fût-ce que l'enfant qui a oublié sa clé et qui se sent confortable de cogner chez le voisin en disant « J'ai oublié ma clé, je peux-tu attendre maman ici avant qu'elle rentre du travail? » Oui, vous avez tout à fait raison, la protection devrait être donnée un envers l'autre. Merci beaucoup, Mme Julda. On accueille Mme Claire. Bonsoir, Mme Claire.
Oui, bonsoir, Dr. Laverge. Vous avez des sujets intéressants. En fait, c'est vrai que ça prend un village pour élever des enfants, mais je me demande si les juges, dans leurs décisions, sont toujours compétents. C'est-à-dire que si dans une famille quelconque qui a des problèmes, mais dans ce village, il y a les grands-parents, il y a les tantes qui pourraient à ce moment-là prendre les enfants durant le temps qu'il y a un problème dans le couple à place de les envoyer dans des foyers nourriciers. Moi, j'ai vécu ça.
Ouais.
Ça a été très dur. Les enfants n'ont resté qu'un mois. Mais si on avait été... qui aurait pu nous demander notre avis, on aurait pu le donner à ce moment-là, puis j'aurais été vraiment, en tant que grand-maman, j'aime mes petits-enfants. Alors, je pense que le juge n'est pas toujours compétent dans ses décisions.
Je vous dirais que le juge, il va falloir que les juges aient une nouvelle formation, surtout Absolument. Si on change la loi, hein, parce que les lois sont suggérées, en tout cas, plusieurs items on suggère de changer ces lois-là. Et deuxièmement, on suggère aussi un recyclage, c'est-à-dire une mise à jour de la formation des juges à cet effet-là. Et effectivement, souvent, les familles ne sont pas nécessairement au courant que, par exemple, votre petit-fils ou votre petite-fille est avec la DPJ, surveillance ou intervention ou tout ça. Puis effectivement, de rechercher les gens de la famille, Absolument. C'est un premier niveau. Vous avez tout à fait raison. Et on espère que ça va se faire dans les prochaines années. Sinon, j'espère les prochains mois. Bien, merci beaucoup, Mme Claire. Excellente intervention. On accueille M. Jimmy. Vous êtes quelqu'un qui connaissait très bien le système, ça a l'air.
Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai comme pu faire partie un peu de ça, puisque ben c'est sûr, comme je disais, j'ai fait 15 familles d'accueil dans toute mon adolescence, dans le fond. Dans le fond, moi, je suis tombé orphelin à l'âge de 14 ans. Mes parents sont décédés.
Okay.
Puis j'étais déjà placé en famille d'accueil parce que mon père avait des problèmes d'alcool. Et c'est sûr. Fait que moi, dans le fond, c'est sûr qu'il va toujours avoir des signalements à la DPJ. Puis ce que je trouve plate dans tout ça, c'est que je prends exemple avec moi parce que c'est le meilleur exemple que je peux donner. Tu sais, il place les jeunes un peu. Ben moi, je me suis fait barouetter d'un côté puis de l'autre, puis c'est vraiment pas bon pour le mental d'un jeune aujourd'hui.
Non.
J'ai beaucoup de difficultés avec l'attachement, puis ces trucs-là, j'ai de la difficulté à faire confiance aux gens. Puis c'est sûr que j'ai appris à vivre avec ça, mais ce que je trouve plate, c'est que statistiquement parlant, la plupart des jeunes qui rentrent en famille d'accueil puis qu'ils ont des familles qui sont un petit peu plus démunies, ils vont finir, c'est pas un jugement du tout, mais ils vont finir sur le bien-être ou sur ils vont avoir de la difficulté à se démarquer dans la société parce que justement, ils vont comme je sais pas comment vous dire ça, mais quand vous êtes en famille d'accueil, il y en a du moment où vous partez, il y en a un autre qui rentre le lendemain.
Oui, c'est ça.
C'est comme ça que ça fonctionne.
Si on refaisait l'histoire un peu avec vous, M. Jimmy, là, je ne veux pas connaître les pourquoi et comment. Y a-t-il une famille que vous avez rencontrée que vous regrettez de ne pas avoir été plus attachée à cette famille-là pendant une période plus longue?
Sans vous mentir, il n'y en a pas.
Okay.
Pourquoi? Parce que chaque famille d'accueil, comme un peu comme je l'ai dit, du moment où vous partez, eux, il y en a un autre qui rentre le lendemain. Donc, eux, ils ont comme un peu un certain devoir de pas s'attacher, mais ils ont différents règlements. T'sais, j'avais des familles d'accueil où ils barraient les frigidaires entre les repas.
Okay.
J'avais des familles d'accueil qui voulaient pas que vous fermiez la porte de chambre le soir. Mm-hmm. Moi, je payais mon cellulaire, fallait que je le donne en rentrant. Ça, c'est différentes familles d'accueil, mais ils ont tous leurs petits règlements qui fait en sorte que tu peux pas être bien à 100%. T'es pas chez, tu le sens
tu peux
que
pas
t'es
t'établir.
Pas chez toi.
Ouais, c'est ça.
Puis moi, j'étais orphelin, donc j'ai recherché un peu à 14 ans quelqu'un avec qui je pouvais m'attacher. Puis qui, mais tu sais, je vous donne un exemple. Vous allez demander, je peux-tu avoir une pièce pour aller au dépanneur? Si tu n'as plus d'argent que la DPJ te donne, eux autres, ils t'en donneront pas.
Okay.
Fait qu'à un moment donné, ça fait que tu leur sens qu'eux aussi, ils veulent pas
s'investir, veulent pas mettre, non plus s'engager non plus. C'est ça, il n'y avait pas d'engagement vers vous.
Puis tu sais, c'est ce que je trouve plate, c'est que la plupart des jeunes qui sont là-dedans, ils vont avoir de la difficulté après, parce qu'à 18 ans, ça, il y en a beaucoup. Regardez, à 18 ans, eux, ils vous mettent un peu à la porte.
Oui, c'est ça.
C'est peut-être les mauvais mots, mais à 18 ans, tu sais, souvent, tu cherches encore. Moi, je me rappelle, j'ai comme été chanceux, parce que j'ai quelqu'un à 17 ans qui a vu que je commençais à me révolter, puis il m'a pris avec lui, mais tu sais, il y a des jeunes qui, à 18 ans, ils n'ont pas d'emploi, ils travaillent chez McDonald's, sont encore à l'école, puis en ouais, va-t'en, tu vas payer ton appart. C'est beaucoup de pression.
Mais là, vous avez vu que ça va aller jusqu'à 25 ans, hein, qu'il va avoir un soutien jusqu'à 25 ans.
Donc, ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose.
C'est une bonne chose.
À 18 ans, t'es pas nécessairement. C'est pas tout le monde. J'entendais parler de ça hier à la radio. C'est pas tout le monde qui est prêt à la vie adulte. C'est beaucoup de stress parce que tu dis, je fais 13 $ de l'heure, exemple. Moi, je suis plus rendu là. J'ai évolué puis j'ai réussi à avoir une bonne carrière, puis j'ai un excellent emploi, mais il y a des gens qui s'en sortiront jamais, puis ils s'acharnent sur eux autres, puis c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est juste parce qu'ils ont pas les moyens. Tu sais, la DPJ, moi, je me rappelle, tu sais, à l'école, tous les jeunes avaient du beau linge, du linge de marque, puis toi, quand tu étais à la DPJ, tu as 150 $ par mois pour t'acheter des choses. Fait que là, la famille d'accueil, qu'est-ce qu'elle va te suggérer? C'est, ben, on va aller chez Walmart.
Mais,
tu sais, du point de vue des autres à l'école, quand t'as 14 ans, comment tu t'habilles, ton aspect.
Être reconnu par les autres, faire partie de la gang, puis faire partie du groupe. Puis en plus, c'est qu'à 15 foyers d'accueil, vous avez dû changer d'école souvent, vous?
Moi, dans le fond, j'ai quand même été chanceux parce que je suis resté dans la région de Trois-Rivières, mais.
Okay.
Tu sais, j'en ai plein des exemples comme ça. Là. J'ai rencontré un jeune que lui, il me disait, moi, j'avais pas d'argent, j'étais mal habillé. Fait que la seule façon que j'avais de me démarquer, c'était d'acheter des cigarettes puis d'en donner aux autres au coin fumeur.
Okay. Fait
qu'à un moment donné, tu deviens que tu te dis calé que, tu sais, y a-tu une façon que ces jeunes-là s'en sortent? Y a-tu une façon? Puis il y en a qui vont s'en sortir, qui vont devenir.
Vous, qu'est-ce que vous allez faire comme personne adulte ayant réussi, on va mettre ça comme ça parce que vous dites que vous avez un bon emploi, vous êtes établi. Vous, qu'est-ce que vous feriez pour aider un jeune qui est dans une situation semblable?
Bien, c'est pas facile parce que là-dedans, il y a beaucoup de choses qui viennent comme en confusion. Ça dépend aussi de la personne, mais
est-ce que moi, vous seriez prêt à accompagner un jeune pour l'aider à avoir une certaine stabilité?
Ah, ben oui, ça, je suis pas intervenant social, mais oui,
non.
Si ça pourrait aider quelqu'un.
Si vous parliez à votre meilleur travailleur social rencontré, puis vous disiez, là, hey, moi, je suis passé par là, je peux-tu jaser avec un jeune, prendre un café, tu sais, virtuel une fois par semaine avec son téléphone ou quelque chose comme ça? Pensez-vous que ça serait faisable?
Ça serait faisable, mais moi, la mentalité que j'avais, j'étais tellement révolté contre la DPJ dans ce temps-là. Aujourd'hui, j'ai tout un autre œil là-dessus, mais
quand t'es
pris dans le système,
oui.
les intervenants, puis tout ce qui entoure ça, tu veux rien savoir de ça, puis tu te dis que c'est la pire chose. Moi, il y avait un intervenant qui m'a beaucoup aidé.
Mm-hmm.
Je n'aimerais pas son nom, là, mais
donnez juste son prénom.
Il s'appelait Denis.
OK.
Puis c'était monsieur-là, il voulait m'aider. Puis regardez, aujourd'hui, j'en ai conscience que dans ce temps-là, j'étais tellement révolté par le système, par comment ça fonctionnait. Tu sais, quand t'as fait 15 familles d'accueil, à un moment donné, tu te dis, OK, tu sais, ton mental, il, à un moment donné, il fait comme, OK, tu sais, moi, je m'attache plus à personne. Fait que là, tu vois un nouvel intervenant rentrer, puis tu te dis, ben gars, cet intervenant-là, ça va être un intervenant comme un autre, puis dans un mois, deux mois, je vais peut-être en avoir un autre, puis tu finis que c'est dur de
s'attacher. En tout cas, on va au moins remercier M. Denis, et puis on va essayer de trouver des solutions pour que Jimmy puisse correspondre peut-être avec un enfant pour être capable de partager une expérience puis être capable que ça devienne avec des petits bouts de positif. Mais avant de partir à la pause, on va avoir l'opinion de Catherine. Bonsoir, Madame Catherine.
Oui, bonsoir.
Oui.
Je suis nouvellement famille d'accueil à Granby.
Oui.
Oui, depuis octobre dernier. Ouais. Puis j'ai entendu le jeune homme précédemment. En tout cas, moi, la façon que je vois ça, là, c'est que je connais plein de familles autour de moi qui pourraient faire ce beau geste-là aussi. Mm-hmm. C'est qu'ils ont les moyens, puis qu'ils ont tout en...
Ils ont tout ce qu'il
faut. Moyens monétaires, mais aussi l'éducation, puis qu'ils pourraient prendre sous leurs ailes un enfant là, pour les aider, parce que c'est pas si compliqué dans le sens que c'est des enfants, ils ont besoin d'être aimés. C'est, tu sais, on dirait que des
vous
fois...
Vous en avez combien, entour, vous, à la maison?
Ben moi, j'ai deux enfants à moi, puis oui. J'ai accueilli un enfant.
Parfait.
Parce que j'ai décidé de continuer à travailler. J'aime mon travail quand même.
Okay.
Je voulais continuer à travailler. Donc
c'est un enfant d'âge scolaire.
Exactement. Okay. Il est en première année.
Okay.
Mais dans le fond, on dirait que ça peut faire peur parce que tu te dis, c'est vrai que ça a son lot de défis. C'est des enfants qui ont beaucoup de besoins, puis des fois, ils ont manqué beaucoup. Donc, faut rattraper le temps perdu. Mais je veux dire, c'est tellement beau de voir leur évolution, de voir qu'est-ce qu'ils sont capables d'accomplir. Moi, en tout cas, je suis super fière de l'enfant que j'ai accueilli. Je regrette pas du tout d'avoir fait ce geste-là, puis je reviendrai pas en arrière.
Avez-vous peur qu'on vous l'enlève?
Ben, je vois pas ça comme ça.
Okay.
Parce que, au départ,
je voulais savoir comment vous voyez ça.
Ben, c'est sûr que moi, je suis prête à le garder jusqu'à temps qu'il soit adulte, là, je veux dire, jusqu'à temps, comme si c'était mon enfant, je veux dire, à 18 ans, je ne le mettrais pas dehors, jamais. Je serais prête à faire ça. C'est sûr que je m'attache à cet enfant-là et vice-versa. Mais je veux dire, si on juge que la famille a fait ce qu'il faut puis qu'il peut retourner avec sa famille, si c'est la bonne chose à faire pour cet enfant-là, je vais l'accepter puisque dès le départ, je le savais que c'était ça.
Ouais.
Puis, en fait, on m'a déjà dit, tu prends soin de l'enfant le temps que tu l'as. Tu fais de ton mieux le temps que tu l'as.
Donc, vous, si on vous suggérait, avec la nouvelle loi, l'adoption simple, c'est-à-dire que l'enfant ne renonce pas à ses parents biologiques, mais les parents ne s'enlignent pas, il manque des rendez-vous, l'enfant les attend, ils ne viennent pas. À ce moment-là, vous seriez prête à l'adoption mixte éventuellement.
Oui.
OK.
Ben,
l'adoption simple, je veux dire.
Oui, parce que je trouve que l'enfant, il aime tellement ses parents ou ses frères et sœurs. Je trouve ça beau, ce
lien-là.
Il faut le garder. Okay. Je veux dire, c'était sa fête en fin de semaine. J'ai invité un de ses frères à venir à la maison malgré le COVID. Là, tu sais, des fois, ça a fait tout. Il était tellement reconnaissant.
Ouais.
Ah oui. Puis c'est beau de voir ça, justement, là, qu'il apprécie qu'est-ce qu'on lui donne. Puis, moi,
vous donnez vraiment le goût, en tout cas. Vous allez certainement convaincre des gens autour de vous. Bien, merci beaucoup, Mme Catherine. On va certainement réfléchir à ça un petit peu plus autour de nous. Alors, la question, c'est qu'êtes-vous prêt à faire pour éviter les signalements à la DPJ au 790-9850 dans le 514 ou dans le 1866 et les textos 98985?
De bonne veut faire la fête. De les mêmes yeux, le portrait de ta mère. De les mêmes yeux, le portrait de ta mère. Demain, fais la queue pour te voir. Viens, mon petit homme, chasser ta peine. Quand l'amertume coule dans tes veines, dans la torpeur, dans la gaieté, je mène le bonheur par le bout du nez. Je mène le bonheur par le bout du nez.
Alors, avec Justine, on va aller voir tout de suite vos réactions. et on va vous donner beaucoup plus de temps.
Oui, parce que les gens veulent s'exprimer. Absolument. Sur notre question. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour éviter les signalements à la DPJ? On a beaucoup de gens qui nous ont écrit sur la messagerie texte via le 98-985 en disant « pas encore une commission, encore de la paperasse ». Arrêtons de mettre de l'argent dans des espèces de comités.
Ouais.
On sait que Régine Laurent propose d'avoir un commissaire, notamment là, au niveau la création d'un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Puis on a aussi quelqu'un qui nous écrit « Je ne serai pas populaire, mais moi, je ferai passer un test de QI à ceux qui veulent des enfants. » C'est pas la première fois qu'on entend ça. Hein?
Oui. Un permis pour avoir des enfants.
Un permis pour avoir des enfants.
Ça, c'est le fantasme de beaucoup de monde dans le réseau. Oui.
Et c'est Stéphane qui dit « Il y a beaucoup trop de jeunes qui veulent juste se faire vivre par le gouvernement. » Grâce aux enfants ou aux allocations. Bon, lui, c'est un petit peu dans...
radical.
C'est radical.
Ouais, c'est ça.
On veut aussi d'autres idées,
oui,
des propositions, des solutions, ce qu'on peut faire concrètement pour aider ces enfants-là, aider les enfants autour de nous. Et je veux même qu'on sorte un peu de les enfants vulnérables, les enfants autour de
soi. Moi, ce qui mettait en tabarouette quand on était dans le réseau, entre autres des CLSC puis Santé mentale jeunesse, c'est on va faire une étude sur les familles à risque. Oh, ouais. À risque de quoi? Et on avait fait, à un moment donné, il y avait une infirmière qui voulait parler de la dépression postpartum, tu sais, dans les groupes à risque. C'est quoi ton groupe à risque? Ben les gens qui sont plus démunis, qui sont plus... Non, non, c'est les riches qui perdent leur identité quand elles ne travaillent pas, ne peuvent pas remettre leur petit tailleur d'hier, ne peuvent pas perdre leur repère au gym. Il faudrait que... soit parfaite avec le chum, parfaite avec la job, parfaite avec tout. Puis le bébé, il prend quelle place là-dedans? C'est beaucoup plus à risque que ma madame qui restait dans le HLM avec sa gang autour. Puis ça allait faire des commissions, bien, elle confiait le bébé à la voisine d'à côté. Puis il faisait un échange comme ça. Dans le réseau, il était beaucoup plus à risque les femmes isolées que les femmes en groupe.
Et on veut entendre justement vos témoignages, vos histoires de partout. Partout au Québec. Appelez-nous 514-790-9850.
Alors, on accueille pour l'instant Mme Audrey-Anne. Bonsoir, Audrey-Anne.
Bonsoir.
Oui, alors, je vous écoute.
C'est sûr que moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que je trouve que c'est des enfants qui ont besoin de vraiment beaucoup de temps et ils ont besoin de beaucoup d'encadrement.
Mm-hmm.
Puis tu sais, je trouve que ça va vraiment... on doit faire notre part, là, tu sais, la société là-dedans, on doit faire notre part. Puis c'est sûr que j'aimerais vraiment ça devenir famille d'accueil pour un de ces enfants-là.
Mm-hmm.
Sauf ce qui me crève le cœur, ça serait juste de penser que peut-être un jour, je pourrais perdre cet enfant-là parce qu'il retourne dans sa famille d'accueil, dans sa vraie famille, je veux dire.
Oui.
Puis, tu sais, on s'attache, là, veux pas, à ces enfants-là.
Absolument.
Tu sais, moi, je la prendrais comme si ça serait mon enfant. Je lui donnerais les mêmes soins.
Mm-hmm.
C'est sûr que c'est des enfants souvent qui ont besoin de plus. Mm-hmm. Des fois, ils ont des troubles de langage. Bon, il faut consulter en orthophonie, ergothérapie, peu importe. Ils ont besoin de plus de soins, plus d'attention. Sauf que, tu sais, moi, c'est ce qui me fait reculer. Puis, j'ai entendu le témoignage de Catherine. Ça donne vraiment le goût.
Oui.
Mais, tu sais, on dirait que j'ai peur d'embarquer parce que, justement, j'ai peur d'avoir trop de peine.
Est-ce que vous pensez que cette nouvelle notion, c'est-à-dire que ce que Mme Laurent veut mettre de l'avant l'adoption simple, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de faire opter l'enfant. L'autre chose, c'est que j'ai pas lu tout le rapport, mais on avait autrefois les banques mixtes, c'est-à-dire que les parents, je veux pas être vulgaire, mais ça faisait un peu garde avec option d'achat, là. Ça faisait un peu... location avec option, parce que tu avais l'enfant pendant un certain temps, puis si les parents abandonnaient complètement l'enfant, c'était toi qui l'adoptais. Donc, mais là, avec l'adoption simple, vous allez pouvoir avoir... Fait que c'est sûr que c'est un risque, mais sauf que si vous vous dites que 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous offrez à cet enfant-là un départ, vous offrez un attachement, que cet enfant-là vous reste attaché, même s'il retourne dans sa famille, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Il y a des enfants qui vont revenir dans leur famille d'accueil. L'autre chose qu'ils vont faire aussi, c'est que si les parents, ça fait pas, au lieu d'aller dans d'autres familles, vous allez presque avoir une priorité de recevoir le même enfant. Donc, ça aussi, ça va changer en fonction des nouvelles règles. Alors ça, c'est à changer aussi. Plutôt que de toujours changer l'enfant de foyer d'accueil, bien, peut-être qu'on va garder le foyer d'accueil plus disponible au cas où. Puis c'est chez vous qu'il va retourner au lieu d'aller dans d'autres foyers. Alors, merci beaucoup, Mme Audrey-Anne, mais allez sonder le terrain avec la DPJ. Vous allez voir ce qu'ils ont à vous offrir pratico-pratique. Et on reçoit Mme Suzanne, qui est une ancienne famille d'accueil. Bonsoir, Mme Suzanne.
Oui, bonsoir.
Oui, votre témoignage.
Ah, quel sujet. Ça me touche droit au cœur. J'ai été famille d'accueil pour une jeune fille adolescente. Là, on dirait qu'on parle souvent des tout-petits.
Ouais.
Moi, j'ai reçu la jeune fille, elle avait 13 ans. Et puis, on l'a eu avec nous jusqu'à l'âge de 18 ans. Mm-hmm. Je vous parle de ça dans les années 90.
Okay.
À l'époque où, effectivement, l'objectif, c'était toujours de retourner l'enfant dans sa famille. Mm-hmm. OK? Si on retournait pas l'enfant dans sa famille, on visait le foyer de groupe.
Oui, c'est alors, vrai.
Oh non, ça, vraiment. Alors, nous, on avait accepté de prendre la jeune fille temporairement. Mm-hmm. Et puis finalement, le temporairement, parce qu'il y avait une pénurie d'adultes, de famille, le temporairement est devenu
permanent.
Un an, 18 mois. Et au bout de 18 mois, on nous dit, ah là, ça sera le foyer de groupe. Et mon conjoint et moi, on s'est regardés, on a dit, ben non, ça n'a aucun bon sens. Et elle est restée avec nous.
Donc,
à partir de ce moment-là, on a établi un plan, un plan de vie,
oui,
si on
tout à
peut
fait,
dire.
Tout à fait. On a établi ça comme ça.
Oui, voilà. Et on a établi un plan pour ses études, pour son autonomie. Et puis, puis moi, dans ma tête, j'avais 5 ans dans ma tête.
Okay.
5 ans. Puis mon objectif, c'était qu'elle rentre au cégep.
Oui.
Qu'elle rentre au cégep. Puis, d'essayer d'aller chercher partout où elle pouvait obtenir des bénéfices dans le sens bourse d'études.
Absolument. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que ça s'est avéré?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, vous avez toujours des communications avec elle?
Absolument.
Ah, excellent.
Absolument. Mais le cheminement pour la famille d'accueil a été quand même difficile, dans le sens que on consultait plusieurs spécialistes.
Ouais.
Et on m'a dit en cours de route, laissez-la tomber, elle va ruiner votre couple.
Et mon Dieu. Et je vous remercie beaucoup de votre témoignage, Madame Suzanne. On doit aller à la pause. On va continuer avec le même sujet. Qu'êtes-vous prêt à faire pour empêcher des signalements à la DPJ dans le 790-9850, que ce soit 514 ou 1866 ou le texto 98985? Alors, de retour à Parlons-nous avec Justine Vachon, notre journaliste collaboratrice. Et la question ce soir était, qu'êtes-vous prêt à éviter les signalements de la DPJ? Mais on a décidé de garder en deuxième heure ce même sujet, puisque vous êtes décidé à en parler. Et on a des hameçons pour vous, des sujets de discussion. Par exemple, vous êtes travailleur social et vous avez en face de vous un enfant d'une fille de 11 ans où le prof d'éduc a vu une morsure sur la cuisse. Cet enfant était dénigré, intimidé, elle mangeait moins, les notes ont chuté. Et la mère a avoué son alcoolisme et on a retiré la jeune, on l'a placée dans une famille d'accueil. La mère avoue son alcoolisme, elle dit être en travail là-dessus, elle se dit avoir un écho surdimensionné, mais ne faire des abus que quand elle est en état d'ébriété. Ça fait 9 mois que l'enfant est parti. Est-ce que vous redonneriez cet enfant-là à maman monoparentale ou si vous mettriez des conditions, genre des rencontres supervisées, ensuite mettre des fins de semaine puis voir comment ça fonctionne ou vous retournez l'enfant en cours parce que maman s'est présentée en cours, a même versé des larmes devant M. le juge. Enfin, toute l'histoire. qu'est-ce que vous feriez être le travailleur social ou la travailleuse sociale?
Je t'entends, Christiane, et quand tu me racontes ça, on s'entend que c'est une histoire qui a sûrement déjà été vécue. Quel travail quand même que ces intervenants,
absolument,
intervenantes. Et ce pouvoir aussi, on va le dire,
oui,
ils ont le pouvoir autant de changer les choses. Parfois, ça s'en va de l'autre côté, mais quel travail! Je suis contente de ne pas être les auditeurs
en
qui
cas,
répondent à cette
question-là. J'ai travaillé avec des Chantal, des Sylvie, oui, des Sonia que j'admire parce qu'elles vont au feu et c'était des femmes rigoureuses. Il y a des gars aussi, là. Je ne nie pas les gars.
Tout à fait.
Mais il y a plus de filles que de gars.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants, pour aider même nos familles,
oui,
autour de nous? Appelez-nous 514-790-9850, 1-866-790-9850, par texto 98985.
Et on a eu la question avant de partir en pause. Est-ce qu'un couple gay peut adopter? La réponse, c'est oui. Est-ce que les familles d'accueil, ça demande des compétences particulières, ça demande de l'engagement, de l'attachement, ça demande un équilibre mental de base. Il y a une évaluation sociale, une évaluation économique, une évaluation aussi au niveau de vos antécédents. Il faut regarder l'ensemble de l'œuvre, bien sûr. Il y a une enquête criminelle aussi. C'est clair que si vous avez déjà été accusé, condamné pour pédophilie, c'est sûr que vous n'aurez pas un enfant. Violence conjugale non plus. Alors, tous ces paramètres-là sont étudiés. Et il y a même aussi votre médecin de famille qui doit aussi donner ses commentaires pour recommander ou pas. Alors, plusieurs intervenants et c'est comme ça qu'on va déterminer si vous êtes apte à être famille d'accueil ou pas. Mais ça vaut la peine d'aller voir. Puis à ce moment-là, vous allez certainement avoir des conclusions. Alors, on accueille Mme Sandra. Bonsoir, Mme Sandra.
Bonsoir.
Je vous écoute.
Je ne sais pas si ça va rejoindre le sujet de votre émission ou rejoindre certains parents.
Mm-hmm.
Moi, je suis parent, j'ai deux filles qui sont placées là actuellement avec la DPJ.
Mm-hmm.
Quand j'ai été rencontrée pour l'investigation,
mm-hmm,
ça a été au bout de 2 heures que j'ai réalisé que c'était moi qui étais visée. Et puis, de fil en aiguille, je me suis aperçue que même si j'ai voulu être extrêmement transparente sur ce que je vivais, ce que j'avais vécu auparavant avec le père de mes filles, finalement, là où je veux en venir, c'est que les signalements, ils font l'évaluation à partir du signalement. Ils font pas l'anamnèse du passé.
OK. Donc, ils regardent juste le fait aujourd'hui.
Oui.
Pas les histoires antérieures.
À partir du signalement. Donc, moi, j'ai vécu de la violence psychologique, violence financière et d'autres types de violences que je désire pas partager.
Oui, OK.
Mais finalement, ça a fini que je faisais de l'aliénation parentale.
Ah, oui.
Que je faisais, c'était pas pour protéger mes enfants, c'était pour monter mes enfants contre leur père.
Ouais, ça,
mais
c'est...
j'ai jamais voulu l'interdire de contact. Ce que je voulais, c'est qu'il y ait un encadrement,
mm-hmm,
et quelque chose de structuré pour que mes filles puissent continuer leur cheminement. Finalement, mes filles ont dû transiter chez leur père. Moi, mon désir, c'était qu'elles soient placées soit en famille d'accueil, foyer de groupe ou mm-hmm, centre jeunesse, peu importe là, mm-hmm, où elles auraient été placées.
Mais vous, c'était un but de protection. C'était un but de protection des enfants. C'était pas des enfants qui avaient des problèmes de délinquance ou des problèmes de quoi que ce soit.
Non,
c'était vraiment une protection.
Elles ont chacune leur partie. Particularité. Mm-hmm. Je ne cacherai pas que moi-même, j'ai des défis à relever.
Okay.
Des fois, le processus est long, mais tu sais, je veux dire, j'ai toujours été là pour mes enfants. Je n'ai jamais manqué aucun rendez-vous.
Okay.
J'ai toujours fait ce qu'ils m'ont demandé. Puis finalement, ça a fini que les petites sont parties chez leur père. Puis en moins de 2 ans, elles ont été placées en urgence. Elles ont vécu 2 placements en urgence. Quand elles ont été placées en famille d'accueil, surtout pour ma plus jeune, la famille d'accueil, c'était leur premier enfant qui accueillait chez eux.
Mm-hmm.
Ce que la dame a trouvé difficile, c'est que elle ne les familles, je sais pas maintenant là, mais il y a allé jusqu'à il y a 3 ans.
Mm-hmm.
Les familles ne sont pas au courant du bagage de l'enfant.
Ben, voilà.
Donc, ils savent pas.
Ça, Madame Laurent, ça rentre vraiment dans la les avenues, c'est-à-dire que les familles, il va y avoir des règlements qui vont changer et les familles d'accueil vont être au courant un peu, peut-être pas dans les détails, mais ils vont être au courant. Les gens autour de l'enfant vont être au courant et on va essayer d'avoir des histoires qui vont être centrées sur les enfants, c'est-à-dire papa, maman, grand-papa, grand-maman, ma tante, mon oncle. Y a-tu quelqu'un dans la famille qui peut prendre l'enfant? Y a-tu quelqu'un d'engagé? Et peut-être que les placements vont être plus choisi judicieusement avec la famille autour. Donc, merci beaucoup, Mme Sandra. Oui, effectivement, le dénigrement de l'autre parent, c'est une excuse qui est donnée souvent, mais à vérifier. On va parler avec M. Denis. Bonsoir, M. Denis.
Bonjour, mesdames. Oui. Bonsoir, mesdames. Ça va bien?
Oui, on vous écoute.
OK. Moi, je ne sais pas par où commencer. Votre sujet m'affecte beaucoup parce que je pense que c'est la première fois que j'appelle dans une ligne ouverte. Et
merci
ça,
de la confiance.
C'est bizarre, mais en tout cas, c'est ça, à soi. Parce que qu'est-ce qu'il y en a des intervenants qui placent ces jeunes-là partout? Moi, j'ai été placé. Moi, j'ai été placé à partir de l'âge de 10 mois. Et
hey boy!
Puis j'en ai 63 aujourd'hui. Et puis, je peux vous dire une chose, ça m'a toujours touché.
Ah oui.
Ça m'a toujours marqué dans le sens que je trouvais que les intervenants ou intervenants n'étaient pas à leur place. Ils ne faisaient pas vraiment le travail qu'ils devaient faire. Dans le sens qu'ils ne demandaient pas aux enfants, que moi je considérais dans ce temps-là, j'étais un enfant, que qu'est-ce que tu veux, toi? Okay. C'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu aimes? C'est quoi que tu. Ce que tu attends? Non. Non, on place là. Okay. Si tu n'aimes pas ça, tu nous le diras. Okay. C'est tout.
Est-ce que vous étiez surveillé dans le sens où ils vous voyaient régulièrement ou si vous étiez
non,
en guillemets oublié là?
Ils nous plaçaient là. On les voyait eux autres quand que on avait des problèmes.
OK. Avez-vous les été déplacé souvent?
C'est parce que c'est arrivé que c'est pas eux autres. Il fallait que je le dise à ma mère. C'est ma mère qui nous a placés là. Mm-hmm. Parce que là, elle avait 3 enfants. Puis moi, j'avais 10 mois, c'est en 57-58 dans ces années-là.
Okay.
Il donnait 125$ par mois à ma mère pour faire vivre 3 enfants.
Okay.
Ben non, c'était impossible. Fait qu'elle aimait mieux nous placer puis nous gâter un petit peu.
OK.
Fait que ça a été commencé de même. Puis après ça, ben là, si ça avait un problème, moi, je le disais à ma mère. Puis là, ma mère, elle faisait des démarches par conséquence. J'ai eu des bons foyers, mais j'en ai eu des vraiment pas drôles, là.
Fait que ça veut dire que maman, elle a toujours gardé le lien tout le temps avec vous. Là. C'est ça que je comprends?
Oui, plus ou moins, oui.
Ah, oh, plus ou moins. L'attachement principal, c'était avec qui? C'était avec maman?
Je pourrais dire ni un ni l'autre.
Ni un ni l'autre. Avez-vous eu des foyers où vous êtes resté attaché?
J'en ai eu dans tous les foyers que j'ai faits.
Ouais.
J'en ai fait peut-être 2, j'étais attaché.
OK. Puis aujourd'hui?
Aujourd'hui, bien écoutez, là.
Avez-vous des enfants?
J'ai 3 ans. J'ai sauté 3 ans aujourd'hui, là.
Ouais.
Écoutez, là, les foyers, là, c'est ces deux-là que je retiens le plus dans ma vie.
OK.
Puis les autres que j'ai pas été, qui n'ont pas été gentils avec moi, j'ai quasiment tout été réglé mes affaires avec les autres.
Ah, OK. OK.
Directement.
OK.
Ah oui, j'ai été le dire, là, que gars, là, ça, puis ça, puis ensuite. Ah oui, il y a juste un foyer dans toute la gang. C'est mon dernier foyer que j'ai fait. J'avais 15 ans. J'ai pas réussi à le faire.
Okay.
Mais c'est le foyer que j'aurais aimé mieux le faire pour lui dire que c'est une gang de bébés, en tout cas.
OK.
Mais les top.
OK.
Mais c'est parce que je regarde, parce que quand on revient à ce que je disais tout à l'heure, les intervenants, là.
Oui.
Moi, le dernier foyer, justement, nous autres, on avait un petit chèque de dépenses par mois que j'avais pas.
OK.
On avait un petit chèque par mois pour nous habiller que j'avais pas non plus. Puis, à un moment donné, mais là quand c'était trop, hein?
Oui.
Fait que là, il a déclaré.
Oui, tout à fait.
Là, ça s'est fait. Là, ils m'ont confronté avec ce foyer-là. Là. Direct là. Tiens, toi, là, dis-leur là, que c'est ça, puis c'est ça.
Ben là, j'ai dit c'était ça, ben là, là, je suis devant eux autres, là, ben là, je suis mal, je reste là, moi, là.
Ben oui, c'est ça, tu, les conséquences.
Puis, ça... ah ouais, le malade, toi, là, ouais, dis-leur, là, puis, mais là, comme punition, les autres, ils ont avoué que c'était vrai. Comme punition, vous allez les garder pendant 2 mois de temps.
OK.
Gratuit.
OK.
Qu'est-ce que tu pensais qui est arrivé, moi?
Oh, que vous deviez manger des toasts.
Des toasts?
Ouais.
J'ai dû voir une affaire, là. On était 6 parce que mon frère est avec moi.
Okay.
C'est moi qui a obligé mon frère d'aller là-bas faire des plaintes.
Okay.
Parce que lui aussi, il t'a envoyé une nourricier, lui, avec ouais. moi, dans ce temps-là. Il est allé 4 à la table en train de manger. Nous autres, on est les 2 debout à l'entour de la table, puis on les regarde manger. Si vous voulez manger, faites-vous à manger.
Eh hey boy. Fait que vous l'avez vécu à la dure. Donc, les travailleurs sociaux avec vous, vous avez vécu des choses difficiles et la continuité semble pas avoir été, en tout cas, la marque de votre vie. Ben, en tout cas, j'espère que maintenant, mais je vous remercie de votre confiance et de nous en avoir parlé. On va parler maintenant avec Mme Mélanie. Bonsoir, Mme Mélanie.
Ben, bonsoir, Dr. Laberge.
On vous écoute, madame.
Moi, ce qui m'a fait réagir, c'est le petit topo que vous avez dit, là, la jeune fille de 11 ans,
ouais.
qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ouais.
Moi, je suis une maman. J'ai ouais. 2 enfants, mm-hmm. 10-15 ans maintenant.
Mm-hmm.
Je regarde beaucoup les enfants, puis on peut-tu leur en parler?
Mm-hmm.
On peut-tu s'asseoir avec eux autres? Comme le monsieur disait là tantôt, il n'y a personne qui s'est assis savoir ce que l'enfant veut, ce que l'enfant ressent nécessairement pour savoir est-ce que toi, là, tu te sens confiance avec maman?
Oui. Mais si maman est là, est-ce que l'enfant dira non, tout?
Non, pas avec maman, là.
Avec l'intervenant.
Avec un intervenant okay. avec lequel il a confiance.
Okay.
Moi, je sais que quand on a divorcé, j'ai appelé le CLSC, parce que j'ai beau être calée en psychologie, moi,
ouais.
mes enfants, c'est une autre histoire, là.
Okay.
J'étais impliquée. J'ai fait venir un intervenant du CLSC qui faisait des rencontres avec ma fille, qui avait 9 ans à l'époque.
Mm-hmm.
Et elle en avait confiance, M. Gagnon. Elle l'aimait bien.
Okay.
C'est qu'elle était capable de lui dire plein de choses.
Okay.
C'est le genre de personnes-là qui vont écouter puis qui vont peut-être même guider l'enfant à savoir s'exprimer pour pouvoir donner. C'est ça qu'il faut, là. Mais, aujourd'hui, là, on est assis sur la communication. C'est ça qu'il faut.
Ben, moi, vous avez tout à fait raison parce que dans le rapport...
Mon fils, depuis l'âge de, mettons, 5 ans, qui est capable de vraiment dire... Il a toujours choisi ses vêtements et ses coupes de cheveux.
Ouais.
Parce que moi, je les ai élevés comme ça, mais les intervenants, quand il y a un problème avec des enfants de la DPJ, devraient justement enseigner ça aux enfants, dire, regarde, je te propose, dis-moi ce que tu préfères, et là, on va avoir probablement beaucoup plus la vérité sur ce qui se passe à la maison.
Tout à fait, sauf que Mme Laurent, dans son rapport, ce qu'elle mettait comme système, c'était de la médiation avant d'arriver aux accusations. Donc, ce que vous suggérez, c'est tout à fait... on est prêt à ça, sauf que qui va le faire, comment ça va être fait, où ça va être fait. Vous avez raison de mentionner le CLSC, parce que si on veut aller en prévention, il faut que les interventions du CLSC soient plus présentes. Et effectivement, qu'est-ce qu'on nous offre dans chacun des CLSC? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que c'est pas satisfaisant? Est-ce qu'il y a de la médiation? Vous avez une excellente question et un bon sujet d'intervention aussi. Alors, je vous remercie, puis on va aller à la pause. Vous savez que le numéro, c'est le 790-9850, que ce soit 514-1866 ou le texto 98985. On veut savoir quoi faire avant de se ramasser à la DPJ. Nous sommes de retour et vous savez qu'on parle ce soir de que pensez-vous faire pour éviter qu'on ait besoin de la DPJ, pour éviter les signalements. Mais personnellement et concrètement, qu'êtes-vous prêt à faire? Justine,
on
nos réactions?
Francis sur la messagerie texte 98985 qui nous a écrit en disant « L'aliénation parentale n'existe pas dans le système. » Lui dit « Les intervenants n'ont pas l'autorisation d'émettre ce diagnostic, dit-il. L'ordre des psychologues ne veut pas. » Il part d'une expérience personnelle parce qu'il dit avoir perdu sa fille en février. Elle dit qu'elle est maintenant complètement aliénée. La DPJ était au courant, dit-il. Plusieurs signalements retenus, mais à chaque fois, on me répondait que ma fille n'était pas encore assez aliénée pour qu'ils interviennent maintenant. Il est trop tard, je ne vois plus ma fille. La DPJ refuse de faire de la prévention. Et l'aliénation parentale, c'est vrai que c'est un gros, gros problème. On le voit de plus en plus. On en entend de plus en plus parler. Difficile à cerner.
très difficile à cerner parce que souvent, entre autres, c'est utilisé chez maman qui parle en mal de papa, oui. Mais tu sais, c'est rare que ça se fait devant lui ou devant l'intervenant. L'inverse est pareil. Donc, les enfants sont en conflit de loyauté. Et ça, c'est très, très, très difficile parce qu'on sait que les enfants, il y en a beaucoup qui sont attachés malgré les mauvais traitements. Un enfant qui a été battu, qui a été malmené, il va voir sa mère ou son père puis il va sauter dans ses bras. C'est parce que c'est son lien d'attachement.
Et tu sais, depuis tantôt, depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de prévention, de certaines ressources vers les CLSC, mais il y a aussi le rapport de Régine Laurent, de la Commission Laurent, parle de la nécessité de garantir aux intervenants et intervenantes de la sécurité physique, psychologique, parce qu'elles travaillent dans des milieux explosifs, donc de la formation, qu'elle soit encadrée, qu'elle ait une meilleure supervision clinique, une meilleure formation aussi pour cerner tout au long, parce que souvent, elles arrivent là, sont toutes seules.
Oui, et ça prend de la continuité.
Oui,
et
absolument.
Ça, la continuité, on ne l'a pas.
Alors, on voit vos pistes de solutions sur les signalements 514-790-9850. Et d'ailleurs, tu voulais qu'on réentende un extrait de notre collègue Luc Ferrandez aujourd'hui qui parlait de solutions, d'un autre changement de culture dans les façons de faire au Québec. Et il y a un lien, lui, parlait de la violence des gangs de rue, mais il y aurait un lien à faire.
Oh, tout à fait, c'est pour tous les enfants.
La DPJ, on l'écoute.
La vraie solution, c'est celle-là. La vraie solution, c'est l'engagement social. Il faut aller auprès de ces jeunes-là de multiples manières. En commençant par l'éducation, en commençant par le CPE, tu sais, ça prend des CPE dans ces quartiers-là. Est-ce qu'il y en a autant qu'ailleurs? Moi, ce que je lis, c'est qu'il y en a moins qu'ailleurs. Après ça, l'école primaire, l'école secondaire. Et cette idée-là d'avoir du tapis mur à mur, j'ai toujours dit, tu sais, le gouvernement, c'est pas une compagnie de tapis, là. Le gouvernement est pas, il faut qu'il réfléchisse à l'idée de mettre la même ressource à Saint-Lambert et à Montréal-Nord. Ça peut pas marcher de même.
Et il a tout à fait raison. Effectivement, les milieux doivent aussi travailler pour eux-mêmes. Comme on disait tantôt, une partie de soccer, tu n'es pas obligé de prendre juste pour ton jeune. Tu peux prendre pour le groupe. Tu peux demander à l'instructeur si, par exemple, il y a un enfant pour lequel il n'y a jamais personne qui prend pour lui. Ben, on peut aller là avec une autre famille. Puis, tu sais, l'autre famille va prendre pour la petite personne, tu sais, une fille ou un gars. Donc, et juste des gestes comme ça, de redonner confiance à un enfant, c'est énorme.
Ah oui, de créer un clan aussi autour de ces enfants-là.
Absolument.
On veut vos pistes de solutions. On veut de l'espoir un petit peu.
Oui.
514-790-9850.
Et on reçoit M. Éric. Bonsoir, M. Éric.
Bonsoir, Mme Laberge. Ça va bien?
Oui, c'est le cas de dire que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, vous, dans le sens.
Ben, écoutez. Moi, je suis heureusement marié avec une intervenante de longue date. Donc, elle, ça fait pratiquement 20 ans qu'elle est à la protection de la jeunesse. Mm-hmm. Elle a été au départ intervenante sur le terrain au signalement. Aujourd'hui, elle est aux ressources et aux expertises psychosociales. Mm-hmm. Je me créerais peut-être pas d'amis ce soir, là, mais c'est pas le but de mon appel. Une grosse partie du problème, c'est que la DPJ n'atterrit pas dans la vie des gens pour aucune raison.
Non.
Normalement, quand ils arrivent là, et vous en parliez tantôt, les enfants ont les liens d'attachement et tout avec les parents, ils les aiment, les parents et tout. Quand la DPJ débarque chez vous, normalement, il y a une très bonne raison, il y a une raison valide, il y a eu des signalements, il y a eu multiples signalements, et c'est là que la DPJ, normalement, va intervenir. La loi, par contre, est un peu mal faite en ce moment. Mm-hmm. Parce que ce qui arrive, il y avait votre intervenant plus tôt, monsieur de 63 ans, je crois, je m'en souviens de son nom.
Oui, oui.
Qui parlait qu'il avait été changé de famille et puis que personne ne lui avait demandé son avis en tant qu'enfant. Mm-hmm. Malheureusement, les ressources sont tellement limitées à l'heure actuelle et depuis plusieurs années. Et les intervenants ont des caseloads qu'on appelle communément dans le jargon, tellement difficiles et lourds pour pour une personne à voir chaque enfant que malheureusement, ils n'ont même pas le temps de demander aux enfants qu'est-ce qu'ils en pensent. Et puis, les enfants qui sont passés d'une famille d'accueil à une autre, les gens souvent se demandent pourquoi qu'on ne leur met pas dans la même famille d'accueil? Mm-hmm. Ben, la loi est faite de façon à ce que les intervenantes se positionnent pour retourner l'enfant dans la famille et non les garder dans les familles d'accueil. Le problème, c'est que souvent, ça va devant les tribunaux, les parents se sont replacés pendant un certain temps, ça passe devant le juge, l'enfant est retourné chez son parent, trois mois, six mois plus tard, le parent part sur une dérape, l'enfant est signalé, il retourne dans une nouvelle famille d'accueil parce que la famille d'accueil, elle est payée pour ses places disponibles. Donc, ils doivent les remplir. Donc, quand l'enfant sort, il y en a un autre qui rentre. Ça fait que l'enfant qui se fait brasser et retourner dans la nouvelle famille d'accueil, ben, c'est un cercle vicieux. Et puis, la loi est faite pour que toutes les fois, on essaie de retravailler le retour avec les parents. Malheureusement, puis c'est triste pour ces gens-là qui ont de la difficulté, les ressources sont très, très limitées pour les parents pour essayer de se sortir de leur situation.
Absolument.
Et d'essayer de s'améliorer pour pouvoir avoir la garde de leur enfant. Et puis, la loi est aussi faite de façon à ce que, avant qu'un enfant devienne adoptable ou placé à majorité, ça prend tellement d'erreurs de la part des parents, le processus est tellement long que les enfants deviennent extrêmement poqués.
C'est ça. Puis malheureusement aussi, avec les plans de vie, et même quand on demande à la famille d'accueil, puis on dit ne lâchez pas les enfants tout de suite, additionnez pas, vous en avez déjà deux, un frère puis une sœur, ils évoluent très bien depuis l'année et demie où ils sont chez vous, le deux ans où ils sont chez vous. On attend réintroduction progressive. Prenez pas d'autres enfants parce qu'en bon québécois, vous allez les scraper, vous allez diminuer l'attachement. Ces enfants-là sont actuellement en train de s'attacher, en train de s'ouvrir les ailes, vont aller au camp de jour, prennent un petit peu d'espace. Oh non, j'aime ça des enfants. Donc, t'en prends trois autres et comme ça, on va, entre guillemets, scraper les deux qu'on a. Alors, malheureusement, c'est arrivé et c'est très triste, mais on va essayer avec les nouveaux plans, au moins, de garder les enfants le plus longtemps avec des réintroductions progressives. Et moi, j'ai énormément confiance aux adoptions simples, c'est-à-dire les plans de vie où l'enfant n'est pas obligé d'opter pour la famille d'accueil contre son parent, mais peut préserver les deux. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Éric, et on vous souhaite... On souhaite bonne chance à votre conjointe qui travaille à la DPJ actuellement. On va accueillir M. Gilles. Bonsoir, M. Gilles.
Oui, bonsoir.
Oui, je vous écoute.
Oui, bonsoir. Moi, j'appelle parce que je suis président d'une association qui est la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ.
OK.
La CDPJ. Alors, on existe depuis 2005. Mm-hmm. Et puis, nous, on vise à apporter du support aux parents qui font face à la DPJ. Et, vous savez, lorsqu'un parent fait face à la DPJ suite à un signalement, c'est pas toujours un signalement qui est fondé, malheureusement. Et ça peut être un voisin qui ne nous aime pas la face, tout finalement.
Mais entre autres, actuellement, là où on a le plus de fausses déclarations, c'est dans les cas de divorce.
Absolument. Mmh. Absolument, on en a. Même quand c'est pas une question de divorce, c'est la personne veut se débarrasser du conjoint.
Oui, oui. Bon, on va appeler ça divorce dans le sens large du terme.
Oui, absolument. Et effectivement, là, la personne se retrouve se disant, ben moi, j'ai rien fait. Ouais. Et puis, quand le problème avec la DPJ, malheureusement, la loi est une loi d'exception. Hein.
Ouais.
Donc, contrairement aux autres lois où, normalement, on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire,
ouais.
Ben ici, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que on arrive chez vous, on a un signalement, et puis, dans le fond, vous êtes coupable jusqu'à temps que vous ayez prouvé que vous ne l'êtes pas coupable.
Puis vous, est-ce que vous avez confiance en la commission Laurent et les modifications qui ont été prônées?
Ben, écoutez, il y a des éléments...
Témoigné, vous autres, là, l'association des victimes?
Oui, on avait un de nos membres qui, est allé témoigner.
Mm-hmm.
Malheureusement, cette personne-là a été arrêtée dans son témoignage parce que elle suivait en même temps la mère là, qui dont l'enfant est décédé, là, okay. À Granby, là.
Okay.
Alors là, bon, on considérait qu'à ce moment-là, qu'il y avait peut-être un conflit d'intérêts ou en tout cas, bref. Mais oui, on a emporté un témoignage quand même. On a eu le temps de témoigner.
Qu'est-ce que ça va changer dans votre groupe, ce témoignage-là ou la commission Laurent? Est-ce que vous avez espoir que ça va améliorer les choses?
Écoutez, il y a des éléments intéressants comme celui du poste de commissaire là, aux droits des enfants, au bien-être des enfants. Ça, c'est quand même intéressant, ce point-là. Nous, on demandait ça depuis des années. Ce type de poste-là, une espèce d'ombudsman dédié aux enfants. J'ai hâte de voir comment ça va se réaliser sur le terrain. Là. Okay. Mais ça, c'est un élément intéressant, ça, selon moi.
OK, parfait.
Ça peut être un terrain glissant, c'est quand on parle de peut-être je dirais la primauté parentale qu'on voudrait diminuer. Ça peut être un peu glissant comme terrain, en ce sens que, comme je le disais, la seule chose qui reste souvent aux parents qui sont victimes d'un faux signalement, c'est leur droit parental.
Oui, là, ils vont l'avoir, puis ils vont avoir de la médiation aussi. Donc, ça va apporter un peu de avant les grandes interventions. Donc, je pense qu'il y a quand même des projets qui sont intéressants et qui ne seront pas si compliqués à mettre de l'avant. En tout cas, on garde espoir. Merci beaucoup, M. Gilles. On a M. Sambo. Bonsoir, M. Sambo.
Bonsoir, Dr. Laverge. Ça va bien?
Oui, je vous écoute.
Oui, mais comme vous disiez à Justine, moi, je suis d'origine asiatique.
Mm-hmm.
Puis ces enfants-là, on dirait, j'entends juste plus, on dirait en Occident ou en Amérique, des histoires des DPJ, des choses comme ça, ça existe vraiment pas dans mon pays, surtout ça n'a jamais existé dans mon pays. Là.
Non, ils n'ont pas mis cette structure-là en place.
Non, c'est ça, vrai. Rien de ça.
Mm-hmm.
Puis, comment je pourrais vous dire aussi, c'est que moi, quand j'étais jeune, mes parents, ma mère, ils étaient toujours à la maison.
Oui.
J'ai jamais été fait garder par la garderie, rien.
Mm-hmm.
Mais moi, quand je suis rendu, j'ai des enfants, on a décidé de... c'est que ma femme resterait à la maison pour toujours surveiller l'enfant, la faire manger, tout. Mm-hmm. Tu sais, les liens, c'est proche. Puis il y a aussi, mais je veux pas trop le dire, là, j'ai déjà vécu quelque chose avec la DPJ, puis c'était vraiment négatif. Là.
Mm-hmm.
Puis c'est moi qui ai appelé, puis en fin de compte, c'est retourné contre nous autres à la place.
OK.
Puis ce que je veux dire, c'est que des enfants, ils sont pas toujours innocents non plus, là.
Mm-hmm.
À partir, je vous dirais, 7-8 ans, il y en a qui peuvent manipuler bien des choses. Là.
Oui.
Il faut faire très attention avec ces affaires-là.
Oui, je pense que...
Puis en plus, tu sais, je veux dire, il n'y a pas une solution pour le problème de famille.
Mm-hmm. Non.
C'est comme dans mon pays, il y a une expression qui dit que un miroir cassé, là, même si tu recolles les morceaux, il y a toujours une trace.
Mm-hmm.
Tout à fait. C'est jamais comme avant.
Tout à fait. Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes une communauté en général assez tricotée serrée là, avec les oncles, les tantes quand ils sont présents. Hein?
Ben,
je me trompe pas.
Oui.
Alors,
mes parents, je vous dirais, ça n'existe pas des HLM à le mettre des personnes vieux. Là.
Non. Mais par contre, il y a certainement des parents qui sont pas parfaits. Il y a certainement des parents qui ont des périodes difficiles, qui ont de l'alcoolisme, le jeu. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?
Ben, il faut. C'est du cas par cas. Les parents qui sont alcooliques et tout, puis regarde, un enfant, dépendant de l'âge qu'il a, là,
mm-hmm.
un enfant qui vient de 2-3 ans, puis tu vois des bleus comme ça. Comme la fille de Grimby, là, elle n'avait pas d'affaire à rester là, là.
Non, c'est ça. Mais dans votre communauté, parce que vous dites qu'il n'y avait pas de DPJ, mais qu'est-ce que vous faisiez?
Dans notre communauté, disons que on dirait que le lien parental est vraiment plus proche.
Ouais.
Un parent alcoolique, il tapera pas. S'il va taper l'enfant dans un sens, il va passer par la mère ou le grand-père.
Ouais.
Il va se faire taper après, lui.
OK. Bien, merci beaucoup, M. Sambo. C'est une opinion qui nous éclaire, mais disons qu'il ne faut pas non plus nier les enfants qui sont victimes de mauvais traitements pour toutes sortes de raisons, de maladies mentales ou de problèmes de toxicomanie, parce qu'il y en a dans toutes les communautés. Mais effectivement, c'est intéressant d'aller voir ce que les communautés ont à offrir. Et on va aller à la publicité maintenant, 790-9850 dans le 514 ou dans le 1-866-98-985. Et on se pose la question, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire avant que la DPJ intervienne? En compagnie de notre journaliste Justine Vachon, et on se pose la question, qu'êtes-vous prêt à faire pour éviter les signalements à la DPJ? On parle de travail en amont. On a mentionné les CLSC dans la commission Laurent, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à faire?
Et oui, et je pense que via la messagerie texte, il y a beaucoup de gens qui nous ont questionnés sur comment devenir famille d'accueil. Moi, j'espère que l'émission de ce soir va peut-être, si vous êtes jeune, si vous voulez vous réorienter, vous donner envie de devenir intervenant parce qu'on en a besoin, intervenant, intervenante. On a des commentaires via le 98985. On a quelqu'un qui nous écrit pour aider le système, pour donner la qualité, une belle qualité de vie aux enfants, peut-être commencer à enseigner dans les écoles comment devenir de bons parents comme outil de prévention tout en respectant les familles dans leur culture, leur religion. Parlons seulement des états moraux. Nous reste-t-il dans notre société de la morale? On met beaucoup, on le voit, on le on
de la
l'entend.
Bienveillance.
Oui, de la bienveillance, mais on voit beaucoup. Hein, des fois, on se retourne vers, on devrait enseigner ça dans les écoles et tout ça. On revient encore beaucoup à ce propos-là.
Pourquoi pas des groupes de... Oui. Des groupes de familles, vous êtes un groupe de famille, vous allez, les enfants vont à la même école. Quand vous faites des pique-niques, qu'est-ce qu'ils apprennent, les enfants? Bien, ils apprennent à partager, ils apprennent à donner aux autres, ils apprennent à recevoir. Puis à ce moment-là, on peut aussi intervenir pour donner une pause aux parents.
On voit beaucoup, Christiane, sur les réseaux sociaux, des groupes de mamans, des groupes de parents, des groupes de papas et tout ça. Il y a, effectivement, il y a quelque chose là-dedans. On a aussi Eric qui nous écrit, pour lui, c'est très simple, il y a des parents qui ne devraient pas avoir d'enfants, tout simplement.
Puis en général, il y en a beaucoup. J'ai vu une madame qui, dans le temps, là, qui avait son 7e enfant, puis elle avait même offert d'emblée de le donner à la travailleuse de la DPJ qui ne pouvait pas avoir d'enfant.
Ouf!
Mais les 6 autres étaient placés. Dès qu'un enfant naissait, ding, ding, ding! Et effectivement. Puis la madame, ce qu'elle aimait, c'est d'être enceinte et de mettre des enfants au monde. C'était ça, sa vie qu'elle aimait. C'est une distorsion, tu vas me dire, mais ça arrive.
Mais je vais te poser la question, il n'y a rien au Québec qui empêche, là...
Rien du tout.
Que ce scénario-là arrive, c'est-à-dire de...
Souvent, on va offrir la contraception, puis c'est refusé. Ou par le temps où tu vas offrir la contraception, par exemple, un stérilet Mirena qui va durer 5 ans, puis que ça vaut la peine parce que ça donne une infertilité relative qui est réversible de toute façon. La personne est déjà enceinte, la femme est déjà enceinte avant que tu y installes, tu sais, même si tu as un rendez-vous dans un mois. Alors oui, il y a des difficultés. On va parler à M. Francis. Bonsoir, M. Francis.
Bonjour, Christiane.
Oui.
C'est moi qui ai texté tantôt... pour l'aliénation parentale.
Ouais.
Moi, j'ai quitté mon ex-femme parce que je vivais l'aliénation parentale puis la violence psychologique à la maison.
Mm-hmm. Qu'est-ce puis, que vous entendez par de l'aliénation parentale? Parce que c'est très large.
Elle me dénigrait devant mon enfant.
Du dénigrement surtout.
Du dénigrement. Puis, quand j'ai quitté, cette femme-là s'est mise à faire des signalements parce qu'elle voulait m'enlever mon enfant. Puis j'ai eu un signalement d'abus sexuel qui s'est avéré finalement non fondé.
Okay.
Puis après ça, ma fille est exposée là à la DPJ.
Oui.
Puis en 2013, ma fille participait à des ateliers la fin de semaine. Pour un regroupement, ça s'appelait Samedi de m'en sortir.
Mm-hmm.
Puis la directrice du regroupement m'a téléphoné pour me dire que la mère lui avait demandé des conseils pour que sa fille coupe les ponts complètement avec son père. Puis qu'il fallait absolument faire un signalement à la DPJ. Donc, je me suis présenté dans son bureau, puis c'est elle-même qui a fait le signalement devant moi.
Okay.
Puis le signalement a été retenu.
Okay.
L'intervenante s'est présentée à mon domicile, puis elle m'a dit Monsieur Petit, j'aimerais ça être seule avec votre fille. J'ai laissé seule à l'intérieur de la maison, puis après 20 minutes avec ma fille, elle est venue me voir dehors, puis elle m'a dit Monsieur Petit, elle dit je vous annonce que nous allons fermer le dossier. J'ai dit Mais pourquoi? Elle dit Bien, on sait qu'il y a de l'aliénation parentale, on sait ce que la mère fait, il y a du mauvais traitement psychologique, mais vous savez, Monsieur Petit, votre fille a encore une bonne estime de vous. Okay. On ne peut pas intervenir. Rappelez-nous dans quelques années quand ça sera pire. Puis on verra si on intervient. Il y a eu un autre signalement en 2018. Puis qui a été retenu encore. Puis c'était pas encore assez. Puis il y a eu un autre signalement en 2020. Qui a été retenu encore. Puis là, ben,
toujours
ils
ne
sont
réglés.
Pas intervenus. Non, puis ils m'ont,
en fait,
ils m'ont simplement...
En fait, oui. Pour que ça soit retenu, il faut évaluer, continuer, mais pour qu'on continue à agir au sein si l'enfant n'a pas d'autres mesures de protection, comme par exemple ses ateliers, des gens de confiance, il faut que son développement soit compromis. Et c'est souvent ce qui va faire que l'enfant va avoir des placements ou du retrait d'un bord, du retrait de l'autre. Mais tant qu'on n'a pas ça, malheureusement, effectivement, mais la loi va changer. Gardons espoir. Alors, on vous revient de l'autre côté de la pause pour la conclusion et on va regarder ce qu'on peut faire pour éviter les signalements à la DPJ.